RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle. Aujourd'hui, nous nous intéressons au 7e art qui touche du doigt un peu le spirituel. Si nous regardons bien, en fait, le cinéma jalonne nos vies, hein, nos soirées en famille, entre amis, en amoureux. La salle obscure nous rapproche, mais le cinéma, c'est aussi un média pour donner à voir. Avoir des histoires de vie, des cultures différentes, des sujets de société. Avoir aussi peut-être l'invisible, le spirituel. Dieu s'invite parfois au cinéma. Eh bien, c'est le thème d'un dossier du journal de l'hebdomadaire Le Pèlerin cette semaine. Voilà, quand Dieu s'invite au cinéma. Et on en parle parce qu'il y a beaucoup de ciné-débats pastorales, des soirées cinéma aussi en aumônerie de jeunes. Et souvent, on en profite pour décrypter le spirituel qui traverse la caméra. Alors, pour en parler avec moi aujourd'hui, Sabine de la Moissonnière, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes professeure de littérature et auteure de « Éduquer par le cinéma ». Vous êtes aussi formatrice en analyse filmique. Et puis avec nous aussi Pierre-Olivier Boiton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Pèlerin, vous êtes chargé de la rubrique cinéma et vous êtes occupé justement de ce dossier « Quand Dieu s'invite au cinéma ». Et puis avec nous également Valérie de Marnac, bonjour. Vous tenez la chronique cinéma sur RCF. On vous retrouve tous les mercredis matins sur l'actualité du cinéma. Et puis vous êtes également secrétaire général de l'association Cygnis Cinéma et vous animez des ciné-débats. Quand Dieu s'invite au cinéma, c'est notre thème du jour dans Grand Angle.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
Quand Dieu s'invite au cinéma, quand on a réfléchi à ce sujet, quand je suis tombée sur ce dossier du Pèlerin, je me suis dit, ça c'est un beau dossier pour une belle émission de radio. Alors il y a une actualité, hein, Pierre-Olivier Boiton, pour laquelle eh bien ce dossier vient de paraître donc dans le cahier Foi et spiritualité du Pèlerin de cette semaine. C'est d'abord la journée nationale du 27 novembre, dans quelques jours. Journée nationale organisée par la Conférence des évêques de France et par l'association Cygnis, avec les acteurs des initiatives autour du cinéma. Donc c'est cette année, justement, un petit peu, ça résonne un peu de manière particulière, parce que les cinémas sont fermés, on ne peut pas se retrouver physiquement. Et en même temps, avec les différents confinements, on voit bien que ça a été l'occasion de voir et revoir plein de grands classiques. J'ai l'impression que souvent, on s'est un peu gavé de films ces derniers mois. Est-ce que c'est ça aussi qui a motivé le sujet dans Le Pèlerin, Pierre-Olivier Boiton ?
Écoutez, on va dire qu'effectivement, on attend au Pèlerin avec impatience la réouverture des salles, puisque notre pain quotidien ou hebdomadaire, du moins, c'est plutôt de chroniquer les films qui sortent en salle chaque mercredi. Mais évidemment, on a parfois besoin de prendre du recul et on s'est dit que proposer ce cahier à nos lecteurs serait intéressant, donc avec ma consoeur Catherine Escrive également, voilà, pour aider nos lecteurs à, je dirais, à envisager le 7e art comme un formidable levier pour éveiller, pour nourrir, pour interroger notre spiritualité. Et on s'est rendu compte, bon, j'avais participé l'an dernier à cette journée nationale, et j'avais été assez ébahi par le foisonnement et la fécondité des initiatives très locales qui se présentent, alors soit sous la forme de ciné-débats chrétiens, de festivals chrétiens du cinéma, mais également de retraites cinéma. En fait, je crois que dans ces rendez-vous-là se jouent deux choses qui savent très bien s'articuler. C'est d'une part une expérience collective et une aventure intérieure. Une expérience collective parce que durant ces rendez-vous, on sort de chez soi, on se retrouve avec d'autres pour assister à la projection d'un film ou de plusieurs films, hein, parfois dans le cadre d'un festival. Et en même temps, c'est une aventure intérieure parce que non seulement on sort de chez soi, comme je viens de le dire, mais on sort aussi de soi, car toutes ces œuvres qui sont choisies à la fois pour leur qualité esthétique, mais aussi pour leur supplément d'âme, j'allais dire leur qualité spirituelle, elles vont en retour nourrir notre regard, alors notre relation à nous-mêmes, bien sûr, mais aussi aux autres, in fine, pourquoi pas à Dieu. Le grand intérêt de ce rendez-vous aussi, c'est de pouvoir échanger après la projection sur le ressenti de chacun
Oui, c'est ce dont vous parlez d'ailleurs dans ce cahier. Et alors, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que dans le cahier du pèlerin, il y a deux cartes qui sont publiées. Une carte de France avec les différents ciné-débats qui existent un petit peu, les clubs ciné-débats chrétiens. Et puis, il y a une autre carte avec les festivals chrétiens. Alors, peut-être je me tourne vers Valérie de Marnac. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un foisonnement. Alors, est-ce que ça s'est développé? Parce que alors, soit il y a peu de visibilité de ces festivals chrétiens, de ces ciné-débats, et tout d'un coup on voit une carte, on se dit waouh, il y en a beaucoup. Ou est-ce que peut-être ça s'est plus développé? Je ne sais pas si vous, en étant à l'association Cygnis, vous voyez aussi une évolution.
Alors, ça dépend par rapport à quelle période on compare. C'est-à-dire que les liens entre l'Église et le cinéma, ils sont très très anciens, puisque Cygnis est aujourd'hui le nouveau nom d'une association qui a été créée en 1929. Donc vous voyez que ça n'est pas d'hier et que les chrétiens étaient très très actifs dans le cinéma dès le début. Mais pour être plus récent dans les dernières évolutions, oui, probablement qu'il y a une petite dynamique, alors qu'on a toujours tendance à situer à un des événements qui était la sortie du film Des Hommes et des Dieux, en fait, il y a 10 ans maintenant.
Il y a un avant et un après.
Peut-être, en tout cas, c'est un film qui a eu, qui était à la convergence de beaucoup de choses. Je veux redire juste, peut-être que quand on parle de cinéma chrétien, de festival chrétien ou de ciné-club chrétien, il ne s'agit pas de traiter, enfin, en tout cas, de trouver tous les films qui ont une thématique religieuse, mais bien de porter un regard chrétien sur des films d'aujourd'hui ou d'hier, mais en tout cas des films qui parlent de tous les sujets, qui parlent de l'homme, qui parlent du monde dans lequel on vit. Mais porter un regard chrétien, c'est effectivement, et c'est ce qu'on fait ensemble dans tous ces lieux, c'est effectivement y déceler des valeurs de l'Évangile, des thématiques de responsabilité chrétienne, des occasions de dialogue sur le monde et sur nos vies, en fait.
Pierre-Olivier Boiton, d'ailleurs, je rebondis par rapport à ce que dit Valérie de Marnac. Dans votre édito, d'abord, l'édito est intitulé Miroir de l'invisible, ce qui est une jolie expression. Et vous montrez que vous dites que le pari audacieux un peu du cinéma, ça pourrait être de montrer l'invisible. Et certains films permettent une rencontre entre la terre et le ciel. Et vous citez même Agnès Varda, donc qui n'est pas connue pour être une réalisatrice chrétienne, ne pas montrer mais donner l'envie de voir. Et tout au long, j'ai l'impression, de ce dossier, il y a ce côté de dire le cinéma chrétien, c'est pas forcément un cinéma de sujet religieux, mais c'est bien de voir des choses de l'invisible, peut-être, qui traversent différents films.
Oui, complètement. J'aime beaucoup aussi, vous citez Agnès Varda, qui est une cinéaste que j'aime beaucoup. On pourrait citer aussi sœur Geneviève Roux, qui est animatrice de retraite cinéma. Donc les retraites cinéma, c'est une session spirituelle qui reprend les outils classiques, hein, la prière, la lecture de la Bible, l'introspection, mais qui ajoute l'outil cinématographique. Et bien, sœur Geneviève dit qu'aussi, elle passe son temps, elle, à chercher des traces de Dieu dans les films. Donc il ne s'agit pas d'imaginer qu'on va voir Dieu en vrai, en grand, en lumineux, en éclatant, mais plutôt à travers des petits films. C'est aussi ce que dit Wim Wenders dans sa formule très belle aussi de filmer l'invisible.
Et c'est finalement aussi ce qu'on voit, ce qu'on peut vivre même au quotidien. Vous citez aussi l'évangile de Saint Jean, hein. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, on ne le voit pas forcément dans la rue comme ça. Mais par contre, on va sentir, il va y avoir des traces de Dieu à travers notre relation aux autres. Et c'est ça aussi ce qu'on voit dans les films. C'est ce qu'on peut peut-être analyser aussi dans un regard chrétien porté sur tout type de film.
Complètement. Je crois que l'écueil qu'il faudrait éviter, c'est de penser que parce que le cinéma est spirituel, ça doit être quelque chose de perché là-haut dans les nuages, quelque chose de très cérébral, d'invisible, d'inaccessible. Au contraire, n'oublions pas que nous sommes le christianisme, une religion de l'incarnation, et le cinéma, à ce niveau-là, joue le jeu. c'est évident qu'il faut, il faut embrasser l'humanité. Le cinéma, à travers son regard, embrasse l'humanité dans ce qu'elle a de plus incarné, dans ce qu'elle a aussi de plus complexe, hein, ses ombres, ses lumières, ses joies, ses peines, ses espérances et ses résistances. Mais quand je vous dis ombre et lumière, le cinéma, c'est exactement ça, que serait la lumière sans l'ombre et l'ombre sans la lumière.
Sabine de la Moissonnière, qu'est-ce que vous en pensez ?
J'aime beaucoup l'expression de aventure intérieure pour qualifier le cinéma. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a en effet quelque chose de très incarné. Il y a aussi un rapport au verbe. Et
oui.
Donc, nous sommes la religion du verbe. Et je trouve que c'est un art qui nous amène au beau. C'est ça qui, moi, me plaît beaucoup et qui me permet d'essayer d'en faire un outil éducatif. C'est un art qui nous amène au beau et de façon finalement assez évidente, assez, dirais-je, plus facile que d'autres arts, puisque c'est un art qui est très abordable par tous. Tout le monde a déjà vu un film. Donc, par ce biais-là, on peut toucher beaucoup et essayer de faire grandir. Je trouve que c'est un art qui fait grandir parce qu'il y a cet effet de miroir. Il y a une exemplarité de certains personnages, ou pas, mais en tout cas, il y a matière à réflexion.
Vous avez aussi proposé, Pierre-Olivier Boiton, dans ce cahier Pèlerin, une sélection de quelques films. Alors, j'imagine que c'est toujours un peu compliqué. Là, vous en sélectionnez 10. La sélection, c'est... Est-ce que vous avez fait une enquête un peu dans la rédaction en disant, bon, allez, donnez-nous vos films coup de cœur. Est-ce qu'il y a eu quelques critères précis voilà, pour mettre ces films-là en valeur? Alors, parmi les films cités, hein, il y a l'Évangile selon saint Matthieu. Bon, ça, on peut se dire, c'est classique. Il y a Le Festin de Babette, Les Ailes du Désir, L'Apparition, Des Hommes et des Dieux, bien sûr, on en a parlé. Voilà, il y a plusieurs films comme ça. Je ne vais pas tous les donner. Comment vous avez choisi?
Alors, on n'a pas interrogé toute la rédaction, on aurait pu le faire, hein, c'est un exercice journalistique qui est intéressant. On s'est surtout concerté avec ma consoeur Catherine Escrive. Ce qu'on a surtout cherché à faire dans cette petite bibliothèque, qui n'est pas exhaustive, hein, comme on le précise, c'est de montrer en fait que le cinéma spirituel n'appartient pas à un genre particulier. Quand vous ouvrez les dictionnaires du cinéma, vous trouvez souvent que les films sont classés par catégorie de genre, hein, alors le western, la comédie musicale, le péplum, le road movie, le documentaire, etc. etc. Mais la question spirituelle ne traverse pas un seul genre, elle vient irriguer, tous les genres. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, vous voyez, avec par exemple Bruce Tout-Puissant, qui est une comédie, qui nous montre aussi que le rire peut être spirituel, et que sur des sujets assez graves, hein, comme l'éducation à l'amour, à la liberté, Sabine de la Moissonnière pourra en parler mieux que moi, j'imagine, en pastoral, eh bien on peut passer par la veine de la comédie. Moi j'aime beaucoup aussi l'apparition de Xavier Giannoli. Alors on est plongé dans un vertige métaphysique, hein, et là on est vraiment dans la question spirituelle du doute et de la foi avec ce film, hein, si vous vous rappelez, qui est joué par Vincent Lindon, qui enquête sur la véracité ou pas d'une apparition mariale dans un petit village de montagne. Eh bien, Xavier Giannoli, le réalisateur, a utilisé les codes du polar et de l'enquête, limite du thriller, pour mettre en scène ces personnages, et je trouve que c'est assez malin, puisqu'on emploie le mot enquête, mais le film commence sur une enquête canonique diligentée par le Vatican, elle se poursuit par l'enquête professionnel, l'investigation du journaliste Vincent Lindon, de son acteur, pour enquêter de façon journalistique. Et enfin, ça termine par une enquête beaucoup plus personnelle, une introspection autour de ce vertige métaphysique. Ben oui, faut-il y croire ou pas? Donc là aussi, encore des registres très différents. Le documentaire, le Grand Bal, c'est un documentaire. On dit souvent que le documentaire, c'est, on va dire, le genre par excellence pour montrer le réel, le tangible, l'incarné. Eh bien, le Grand Bal est à la fois un sommet d'incarnation, mais aussi de spiritualité, puisqu'il nous invite presque, j'allais dire, à traverser l'écran, il nous invite à danser avec ces gens qu'on voit sur l'écran. Donc alors, voilà, ce qui nous a tenu à cœur, c'est un grand éclectisme dans les genres qui pouvaient être croisés par le spirituel. Et puis, bien sûr, aussi montrer que le spirituel, c'est quelque chose d'universel, qui n'a pas de frontières. Donc, on a des réalisateurs français, étrangers. On a aussi des référents qui ne sont pas le monde occidental. Par exemple, avec Vers la lumière qui se passe au Japon. Donc, le spirituel, c'est bien une vision la plus large, la plus universelle, la plus intemporelle possible.
Ouais. Sabine La Moissonnière, vous vouliez peut-être réagir?
J'opine du bonnet. Sur Vers la lumière, en effet, j'ai beaucoup aimé que Pierre-Olivier Boiton choisisse ce film avec Catherine Escrive, parce que en effet, ça n'a rien de chrétien dans la culture. On a un film japonais, mais Déjà, le titre est quand même très parlant pour nous, le titre français, Vers la lumière. Pour nous, la lumière, c'est quand même le Christ. En tout cas, toutes les représentations qu'on a en art, c'est la lumière pour tout ce qui est résurrection. Et on sent que ces deux personnages sont à la recherche de la lumière à travers le beau. Il y a une mise en abîme du cinéma, de la photo, etc. Il y a toute une interrogation sur l'art, comment l'art nous nourrit, comment l'art nourrit nos relations. Et finalement, cet art, et notamment celui du cinéma, puisque les deux vont travailler dans le cinéma, va les rapprocher. Un des personnages va perdre la vue, donc il sera privé de cette lumière et de cette image que le cinéma nous offre. Mais perdant cette lumière extérieure, il va gagner en lumière intérieure. Et la jeune fille qui se fait traductrice des films pour les personnes aveugles, eh bien, au contact de cet homme qui ne voit pas l'extérieur, va apprendre elle aussi à regarder plus à l'intérieur d'elle-même. Et de là, elle va se mettre à l'aimer. Et je trouve que la conclusion du film, c'est un peu que finalement, la beauté nous ouvre à l'amour, tout simplement. Et le réalisateur, la réalisatrice, filme très souvent face aux rayons du soleil ou devant des lumières ou des prismes lumineux pour nous montrer qu'il y a une espèce de, comme pour nous montrer, en tout cas c'est mon interprétation, qu'il y a une espèce de divinité tout le temps là. Alors évidemment, moi je l'interprète comme Dieu, notre Dieu, le Christ.
Avec un regard chrétien.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça rejoint parfaitement ce que disait Pierre-Olivier Boiton, c'est-à-dire que le spirituel peut traverser les genres et les nationalités de films sans aucun problème.
Valérie de Marnac, j'entends ce que dit Pierre-Olivier Boiton aussi sur les différents styles et les catégories que le spirituel traverse. Et c'est vrai qu'on peut penser spontanément, on se dit bon, on va porter un regard chrétien sur un film spirituel. On se dit ça va être un film peut-être un petit peu plan-plan, un petit peu voilà, un sujet un peu ennuyeux. Et finalement, quand on voit que ben on peut sortir quelque chose d'une comédie, c'est vrai qu'on n'y pense pas spontanément. C'est aussi une des visions de l'association Cygnis de veiller en fait aussi à regarder un peu toutes ces catégories de films et de pas être enfermé dans un style, même dans un style, dans une culture, comme on parlait là de la culture japonaise, de voir aussi un peu le cinéma universel.
Oui. Bah, en tout cas, l'exemple que vous avez pris est parfait, parce que Vers la lumière dont on parlait a été un des films qui a été primé par notre jury pendant le Festival de Cannes. Donc en fait, Cygnis a deux activités principales, une présence de jury chrétien dans une trentaine de festivals dans le monde, où on envoie donc des jurés de toutes nationalités, dont Cannes, Venise, Berlin, etc. Et là, effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit Pierre-Olivier, vraiment des films très variés qui peuvent être primés. Pour vous donner quelques films récemment primés pendant le Festival de Cannes, donc Vers la lumière, c'était en 2017. En 2019, alors là, c'était le film de Terrence Malick, Une vie cachée, qui recoupait à nouveau la vie d'un paysan autrichien qui depuis a été béatifié, mais c'était pas dit dans le film. Mais des films beaucoup plus très différents, comme Mia Madre, par exemple, de Nanni Moretti, qui est plus une comédie dramatique sur un peu autobiographique du cinéaste. Le film Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, qui donc aborde plutôt le thème de l'islamisme en Afrique subsaharienne. Donc ce très très beau film tourné sur place. Un film iranien comme Le passé d'Ashgar Faradi. Donc voilà, donc des films effectivement de toute nationalité, de tout horizon. Sur les genres, dans les festivals, on est un peu moins diversifié peut-être, encore qu'il y a certains festivals spécialisés, des festivals de films pour enfants par exemple. Donc, une grande diversité. Et puis pour finir, sinon on assure aussi un suivi de l'actualité cinématographique. Et ça, pour le coup, c'est toutes les semaines sur le site internet cygnis.net. Vous pouvez trouver des critiques de films qui sortent. Et alors là, c'est effectivement très
riche. Hein.
Des films d'animation, notamment beaucoup de films d'animation. Enfin voilà.
Pierre-Olivier, on est en période. On va rentrer dans cette période de l'Avent. On arrive vers le temps de Noël et puis on est aussi dans une période un peu particulière de crise. Aujourd'hui, vous qui êtes un peu le chroniqueur cinéma de l'hebdomadaire Le Pèlerin, est-ce que vous auriez un film à conseiller, peut-être à voir en famille, puisqu'on a tous étant un peu confinés, on retrouve un peu tous nos familles, un film qui pourrait faire réfléchir en cette période?
Oui, écoutez, c'est pas un film pour, c'est un film familial, mais qui n'est pas pour les plus petits, mais que je trouve très intéressant, un film qui est sorti en 2006, un film américain qui s'appelle Little Miss Sunshine. Mm-hmm. C'est un film formidable de résilience et d'espérance. Très brièvement, donc il raconte l'escapade en minivan d'une fillette de 7 ans qui réussit à convaincre sa famille de la convoyer à l'autre bout de l'Amérique pour qu'elle puisse participer à un concours de mini Miss beauté américain. C'est pas Miss Beauté à 20 ans, c'est à 7 ans carrément. Mmh. Alors sur la forme, c'est un film déjanté, un film un peu rock'n'roll, une histoire avec des personnages peu recommandables, une famille de losers assez pathétique, et puis un objectif, si on veut, moralement douteux, puisqu'il s'agit de faire d'une fillette une mini-miss. Ça peut sembler très artificiel, oui, et à rebours de toute spiritualité.
On se dit au départ, qu'est-ce qu'on va en tirer?
Voilà, c'est ça. Mais la façon dont cette famille va oublier les propres défauts et égoïsmes de chacun de ses membres, qui s'engluent chacun dans leur pathétique, donc la façon dont chacun va escorter la Benjamine vers son rêve, et voilà, c'est un modèle de résilience et d'espérance qui, moi, m'avait fait beaucoup de bien à l'époque et qui, je trouve, résonne de façon heureuse dans ces périodes où la famille, effectivement, doit faire front.
Alors, c'est le conseil de Pierre-Olivier pour cette période. Et puis, aussi, avant de nous quitter, peut-être, est-ce que vous auriez un film à nous partager, le film qui vous aurait marqué? Voilà, on a tous plus ou moins été marqués dans notre jeunesse, même ou à des périodes de notre vie, par un film, une expérience cinéma particulière. Alors, c'est quel film pour vous?
Alors, vous avez raison de signaler qu'à chaque âge de la vie, finalement, j'ai souvenir, en étant collégien ou lycéen, lors de ciné-club, d'avoir été très marqué, par exemple, par On achève bien les chevaux, et de façon plus récente, dans les années 2000, par le film La vie des autres, film allemand de 2006, qui raconte le chemin de conversion d'un agent de la Stasi, donc ça se passe en RDA dans les années 80. En fait, cet homme espionne un couple d'artistes, ils sont sur écoute, et peu à peu, à son insu, il va s'ouvrir à un monde culturel qu'il ignore, qui est évidemment à rebours du monde matérialiste que propose le régime communiste. Et je repense souvent à ce film, je ne l'ai jamais revu, je ne souhaite pas forcément le revoir, mais je pense souvent à lui et je mets en regard cette phrase d'un des personnages de Dostoïevski, et voilà, la beauté sauvera le monde. Je crois que la beauté, Sabine de la Moissonnière tout à l'heure a parlé du beau en cinéma, et je repense souvent, voilà, à ce film et à cette phrase en disant qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a besoin de cette beauté-là.
Ah bah ça, c'est un beau message d'espérance aussi en cette période. Merci Pierre-Olivier Boiton. Et donc, on peut retrouver ce dossier « Quand Dieu s'invite au cinéma » dans le cahier central de Pèlerin de cette semaine.
Merci à vous.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Et quant à nous, eh bien, je vous propose d'écouter justement la musique d'un film, mais je ne vous dis pas lequel, et peut-être que chez vous, vous allez reconnaître le film, et je suis sûre que mes invités vont reconnaître aussi. On se retrouve dans quelques instants. Et vous avez peut-être reconnu la musique du film Mission, c'est une musique d'Ennio Morricone. Le film est de Roland Joffé, il est sorti en 86. Et nous parlons aujourd'hui effectivement de cinéma, quand Dieu s'invite au cinéma, sur RCF dans Grand Angle.
Grand Angle, Faustine Fayette.
Alors pour parler de cinéma avec moi aujourd'hui, eh bien Sabine de la Moissonnière, vous êtes professeure de littérature et auteure de « Éduquer par le cinéma ». Et vous aviez reconnu ce thème musical de Mission. Et avec nous aussi Valérie de Marnac. Voilà, vous tenez la chronique cinéma sur RCF qu'on peut retrouver tous les mercredis matins, qui est normalement l'actualité. Le mercredi, c'est la sortie des films. Bon, en ce moment, c'est un petit peu plus bloqué. Mais il y a toujours des choses à dire quand même sur le cinéma. Et puis vous êtes aussi, Valérie, secrétaire générale de l'association Cygnis Cinéma qui, entre autres, organise des ciné-débats et un jury. Alors je voudrais revenir sur le jury dont vous avez parlé, donc, qui remet le prix œcuménique, notamment au Festival de Cannes. Valérie, est-ce qu'on peut en parler un peu plus en détail? Quand on remet un prix, on remet par rapport à des critères. Sur quels critères en fait comment vous décidez en fait ce prix du jury œcuménique à Cannes?
Oui, alors le prix il date de 1974, hein, ce prix, donc on le remet avec nos amis d'Interfilm, qui est l'association protestante de cinéma. Donc nous sommes six dans le jury, il y a six jurés, trois Cygnis, trois Interfilm, qui voient donc les films de la sélection du festival, hein, donc les mêmes films que le jury officiel du festival, mais effectivement qui choisit un film selon ses critères à lui. Donc c'est des critères. Alors, le premier critère, c'est évidemment un critère de qualité artistique du film, parce que voilà, un film c'est une œuvre d'art et ça s'inscrit dans une histoire de l'art. Et le deuxième critère, c'est un critère de responsabilité chrétienne, c'est-à-dire de favoriser ou de mettre en lumière des films qui soient porteurs de messages de l'Évangile et qui défendent des valeurs comme des valeurs de paix, de pardon, de respect de la création, des valeurs de défense des plus faibles, des plus fragiles, des valeurs de dignité humaine, voilà. Donc ça, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans beaucoup de films. On y associe peut-être au-delà de ce que le pape François qualifie de valeurs d'une ONG, au-delà de ces valeurs un peu humanistes, on va dire, une dimension plus spirituelle, en fait, dont on a déjà parlé au début de la de l'émission. Et donc en fait la spiritualité, c'est effectivement tout ce qui c'est un peu la somme des aspirations et des inspirations de l'homme, mais surtout avec quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, qui nous de plus grand que nous et qui donne et c'est le cas dans certains films, une dimension un peu de mystère ou en tout cas de transcendance, effectivement.
Alors, le choix des films, parfois, si on veut organiser un ciné-débat ou organiser, regarder un film, peut-être en aumônerie, avec des lycéens, avec des collégiens, c'est vrai que de voir que tel ou tel film a été primé, ça aide au choix. Mais parfois, ça suffit pas. Alors, je me tourne vers Sabine la Moissonnière. Vous avez publié Éduqué par le cinéma. Il y a deux tomes. Il y a un tome plus avec une sélection plus pour les collégiens,
oui,
et un tome plus pour tous,
oui, ou plutôt pour les plus grands, disons,
plutôt
à partir
pour les plus
de
15
grands,
ans, voilà. Ouais. Et alors éduquer par le cinéma, le titre est assez fort parce que voilà, éduquer c'est quand même c'est pas rien.
Non.
Alors pourquoi d'abord peut-être vous êtes professeur de littérature quand même, c'est votre métier. Pourquoi le 7e art vous attire? En quoi ça se complète peut-être aussi avec la lecture? Et est-ce que vous utilisez vous-même le cinéma en tant que prof?
Oui, bien sûr. On a parlé tout à l'heure de la beauté. Donc ça c'est un des thèmes qui m'est cher dans le cinéma comme en littérature, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle entre les deux arts, puisque finalement, on s'aperçoit que le langage est le même.
Sauf qu'évidemment, en littérature, l'image est intérieure, on se la crée nous-mêmes. Au cinéma, on l'a à l'écran. Mais sinon, quand vous étudiez sur un texte des figures de style ou l'emploi de tel ou tel temps, eh bien, c'est ce qu'on va retrouver à l'écran avec tel mouvement de caméra, tel cadrage, etc. Donc, il y a une espèce de grammaire du cinéma qui m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est assez fascinant de pouvoir faire le lien technique avec la littérature. Et puis après, il y a un lien thématique qui est évident et notamment, en l'occurrence cette année, je n'ai que des classes de troisième. Au programme, en histoire comme en français, on a les guerres mondiales. Alors il y a pléthore de films sur les guerres, donc j'ai l'embarras du choix. Et j'aime bien leur donner, après l'étude d'un livre, un film, pour leur montrer comment on peut parler d'un même sujet de façon différente et en même temps avec tous les liens qu'il y a. Donc on a regardé Sophie Scholl sur la Deuxième Guerre mondiale.
Magnifique film.
Magnifique film. En plus, alors là, on parlait de Dieu à trouver dans un film. Là, c'est très, très évident. Puisque
c'est une résistante,
avec son frère. Ils ont,
en Allemagne.
Ils font des tracts de façon clandestine et ils les diffusent dans leur université et jusqu'au jour ils se font prendre. Et le film termine par la guillotine quand même. Elle le sait. Elle est, les trois quarts du film portent sur le jugement, sur l'enquête qui est menée sur cette jeune fille. Il y a une espèce de bras de fer incroyable, de mauvaise foi du côté allemand. Et elle, après avoir essayé bien sûr de cacher ce qu'elle avait fait, finit par tout avouer et elle est dans la vérité. Et là aussi, comme on parlait tout à l'heure de Vers la lumière, il y a des jeux de lumière qui sont étonnants.
Alors c'est amusant que vous parliez de ce film parce que du coup moi tout de suite je me remémore effectivement ce film de Sophie Scholl que j'ai vu en cours d'allemand.
Ah ben voilà.
Et il y a tout un, il me semble dans mon souvenir, ça commence à remonter, que tout l'interrogatoire, une bonne partie du film se passe pendant les séances d'interrogatoire. Oui. Et c'est très violent en fait.
Alors c'est très violent, d'abord ils ferment les rideaux, donc on sent qu'on a quelque chose d'obscur, de fermé, qui risque de ne pas aboutir. Ça, c'est le décor qui nous le dit. L'inspecteur ferme les rideaux, puis il va orienter, bien sûr, la lumière sur le visage de la jeune fille. Et ce qui est fascinant, c'est d'avoir cette étude de la guerre, point de vue allemand, et par la résistance au sein de l'Allemagne. Donc, c'est très beau. Puis, l'héroïne a 22 ans. Donc, ça touche beaucoup des collégiens et des lycéens. Donc, voilà typiquement le genre d'œuvre qui permet de faire le lien entre littérature et cinéma. Et puis, en l'occurrence, c'est un chef-d'œuvre, ce film. Donc, on est dans le beau.
Et alors, je vois que vous parlez donc de cette grammaire, cette technique. Moi, je me demande toujours quand on dit tiens, ce film est bien filmé. Je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire en fait un film bien filmé, bien réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que en écrivant ce livre, vous donnez une méthode un peu pour analyser le film, peut-être pour pouvoir comprendre comment c'est fait, comment on peut en tirer quelque chose? Est-ce que ça, vous avez écrit le livre, ces livres-là parce que ça manquait? Vous, c'est une matière d'analyse que vous ne trouviez peut-être pas et vous êtes dit, ben voilà, là, il faut écrire là-dessus.
Disons qu'il existe de très bons ouvrages d'analyse filmique, mais qui s'adressent aux adultes qui veulent se former eux-mêmes. Et j'en ai lu beaucoup, j'en ai bien profité pour me former moi-même. Là, la spécificité de ces deux manuels-là, c'est que c'est surtout une somme de séances de ciné-club que j'avais faites dans le patronage de ma paroisse. Et au bout de quelques années, j'avais un gros bagage de films que j'avais analysés. J'ai eu une petite formation en passant mon concours de professeur de lettres, de lecture de l'image, ça s'appelait. Et du coup, j'avais quelques outils et quelques techniques. Et on a monté ce ciné-club qui a bien fonctionné. Et au bout d'un moment, c'est mon mari qui m'a dit « Mais tu as vu des centaines de films que tu as analysés. Ça sert une fois dans un petit ciné-club de quartier.
C'est à transmettre.
Et oui. Il avait raison. Oui. Je pense parce que ça sert dans les ciné-clubs, mais ça sert aussi beaucoup dans les familles.
Alors, Valérie de Marnac, vous animez un ciné-débat. Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre de soirée? En quoi c'est différent de regarder un film à la maison?
Peut-être pour compléter effectivement ce que disait Sabine là, ce qui est important quand on est à plusieurs dans le cadre d'un ciné-club chrétien, c'est d'apprendre à voir déjà, d'apprendre à regarder. Et vraiment, moi, je le fais effectivement dans plusieurs ciné-clubs ou dans plusieurs associations, notamment une association qui s'appelle Venez et Voyez, qui justement est vraiment travaille vraiment cette question de la du regard, de vraiment apprendre à voir une œuvre. Ils organisent d'ailleurs par ailleurs des visites d'expositions de peinture, etc. Donc c'est pas propre au cinéma. Mais parce que cette démarche d'apprendre à regarder, elle est vraiment principale. C'est-à-dire qu'on commence une discussion sur un film vraiment en partant du film. C'est-à-dire et on ramène tout le temps le public à ça. C'est qu'est-ce que vous avez vu, quelles sont les scènes qui vous ont marqué, et petit à petit ensemble. Déjà, tout le monde n'a pas vu n'a pas été touché par les mêmes scènes, n'a pas vu exactement la même chose. Donc déjà, l'échange commun apporte aussi une ouverture à ce qu'on a vu, à la réalité, à chacun. Et puis, petit à petit, effectivement, on peut ensemble apprendre à décrypter un film. Alors, évidemment, Sabine en a parlé, la grammaire cinématographique est primordiale. Ça, c'est une technique de savoir ce que c'est qu'effectivement un travelling, une plongée, une contre-plongée, un plan large, serré, et chaque élément de mise en scène a un sens. C'est-à-dire que, par exemple, une plongée, quand vous filmez quelqu'un vu du dessus, et ben effectivement, mécaniquement, vous rapetissez la personne, alors que quand vous la filmez d'en bas, vue d'en bas et avec la personne qui est grandie, ça ne dit pas la même chose.
Mais ça transmet un point de vue, quoi.
Exactement. Alors, et donc, il y a une citation célèbre de Jean-Luc Godard qui disait. Le travelling est affaire de morale. En fait, ça faisait écho à un article de Jacques Rivette sur un film que personne n'a vu, parce que le film, tout le monde l'a oublié, c'est un film de Gilles Pontecorvo qui s'appelait Capot, mais qui filmait les camps de concentration, justement, puisqu'on parlait de la Seconde Guerre mondiale. L'article de Jacques Rivette dans les Cahiers du cinéma était outré sur un travelling final, qui est un travelling sur Emmanuel Riva, l'actrice qui en fait se suicide en se jetant contre les fils barbelés, et il est tourné justement en contre-plongée, c'est-à-dire que le personnage est grandi avec et lui effectivement explique comment ce travelling est absolument choquant par rapport à ce qui est par rapport à et pour finir aussi sur l'alliance de du fond et de la forme qui est indissociable au cinéma. Hein. La semaine dernière décédé un grand critique de cinéma chrétien qui est Jean Collet, et qui justement beaucoup écrit et théorisé sur le cinéma, expliquait comment la morale dans un film, plus que l'histoire et plus que rechercher une histoire édifiante, c'est au contraire justement la distance et la liberté qu'un film laisse au spectateur pour recevoir le film. Et pour se laisser rejoindre par un film, et pour bouger après, pour pouvoir continuer à penser, à réfléchir et à avancer à partir d'un film.
Voilà. Je voudrais me tourner peut-être vers vous deux et rentrer encore plus dans le concret, parce que justement pour les auditeurs qui nous écoutent, peut-être certains ont envie soit de créer un ciné-club, un ciné-débat, soit peut-être d'en rejoindre. Donc si vous voulez en rejoindre, je vous rappelle qu'il y a une carte de France qui est peut-être pas exhaustive, mais en tout cas qui est quand même bien fournie. Donc dans le dossier du pèlerin de cette semaine, pour organiser, pour animer une soirée débat, ça se prépare. Il y a plusieurs étapes. Alors je vois que dans le pèlerin, il donne quelques pistes. D'abord, planter le décor, c'est-à-dire avoir peut-être une salle un peu confortable. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des salles paroissiales avec des chaises qui grincent et qui sont peut-être pas très confort. Bon, on peut peut-être faire un appel au prêtre en disant, si vous voulez organiser une salle, une soirée pastorale, peut-être mettre un petit peu les moyens du côté du confort, c'est plus sympa et on est peut-être plus attentif au film. Il y a choisir le film. Et ensuite décrypter, et puis soigner le clap de fin. Ça, c'est un peu ce que dit Pellerin. C'est-à-dire choisir le film, ça veut dire quoi? Le décrypter, est-ce qu'il y a un peu le béaba à savoir pour analyser un film? Est-ce qu'il y a des étapes? Qu'est-ce qu'il faut pas louper? Et puis pardon, comment on termine une soirée cinéma? Alors peut-être Sabine,
comment on la commence peut-être?
Comment on la commence déjà? Déjà. Oui. On va faire ça.
Alors, Valérie de Marnac anime beaucoup des ciné-débats d'adultes. Moi, je m'occupe plus de lycéens. En l'occurrence, je ne leur dis jamais quel film ils vont voir. Donc, ils arrivent vierges de tout, de toute recherche sur Internet pour ménager un peu l'effet de surprise et puis pour, justement, ce que disait Valérie tout à l'heure, leur apprendre à regarder. S'ils ont déjà lu des critiques ou été chercher ce qu'ils disaient sur les... Ils seront orientés. Donc là, ils sont neutres. Je fais une minuscule introduction sur les réalisateurs et éventuellement le courant dans lequel ils s'inscrivent, la période du cinéma. Et en revanche, je développe un tout petit peu plus certains éléments techniques que je leur demande de repérer dans le film pour... eh bien, encore une fois, leur apprendre à regarder. C'est-à-dire que, alors l'âge auquel je fais référence, moi, est souvent un âge très passif devant l'image. Ils sont complètement envahis, ils sont peu réactifs. Donc là, quand on leur dit, dans ce film-là, vous allez essayer de faire attention, on parlait de Sophie Scholl tout à l'heure, regardez le nombre d'escaliers qu'il y a dans le film, demandez-vous pourquoi il y en a autant. Quels sont les éclairages? Quels sont les observer la présence des fenêtres, etc. Couleurs dominantes, les plans, Valérie parlait de plongée contre plongée, etc. Donc, je leur donne en général trois éléments techniques à observer. Et ensuite, quand on a regardé le film, on en discute sans parler immédiatement forcément d'analyse ou de ce que le réalisateur a voulu dire. Mais au moins, ils ont repéré des éléments techniques concrets. Et ils disent, Sophie Scholl, elle a une écharpe rouge tout le temps. Puis après, au fil de la discussion, le rouge, c'est la couleur du martyr, en effet. Donc, ça fixe quand même l'attention. Et puis, ça permet, je pense, de préciser un petit peu ou de regarder, activement. Il me semble que ça, c'est intéressant. Donc, moi, je fais ça.
Valérie de Marnac, peut-être d'autres conseils pour les adultes, peut-être ?
Alors, pour créer un ciné-club, rien de plus simple. Il faut être deux, trois amis cinéphiles qui ont envie de lancer une activité comme celle-ci. Et plutôt un cinéma partenaire. J'insiste là-dessus parce que nous, on est quand même des grands soutiens du cinéma en salle, c'est vraiment une expérience collective, c'est avec un grand écran. Godard encore disait au cinéma on lève la tête, à la télévision on la baisse. Donc c'est vraiment une expérience même physique. Donc chercher un cinéma et juste se dire que les cinémas sont assez ouverts, beaucoup plus qu'on ne le croit.
Il faut pas hésiter. C'est vrai que ça fait toujours un peu peur la grande salle. On se dit on va pas rentrer là-dedans.
Je vous invite à aller rencontrer les exploitants de salles autour de chez vous. Alors c'est évidemment s'il y a un petit cinéma de centre-ville indépendant, ça sera plus simple que d'aller voir le méga complexe de zone commerciale, mais n'importe, parce que effectivement eux aussi cherchent un peu à animer leur lieu et ils sont ouverts, donc ne pas hésiter à ça. Après le choix des films, je vous renvoie sur les sites internet dont on a parlé et notamment une page sur le site internet de la Conférence des évêques de France qui est assez exhaustif sur tout ce qui existe, donc ça donne pas mal de pistes. Et puis peut-être aussi regarder les films primés, mais se dire qu'il y a pas, voilà, il y a pas, c'est une liste qui est toujours ouverte, donc.
Et puis on peut toujours se référencer aussi sur le livre de Sabine de la Moissonnière, éduqué par le cinéma.
Oui, bien sûr. Oui, parce que, effectivement,
les films. Il y a une liste de thèmes, en fait, aussi.
Pour enfants sont les mêmes pour adultes. Voilà, il y a plein de films. La frontière entre films pour enfants et adultes, on sort plein de films.
Oui, dans l'autre sens, ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne montre pas à des enfants des films qui sont réservés aux adultes, mais en effet, on pourra parfaitement apprécier et étudier un film visible par des enfants en tant qu'adultes, c'est sûr.
Alors, on va écouter un autre thème musical d'un film qui a beaucoup fait parler, et je vous laisse deviner lequel. On se retrouve dans quelques instants.
How I across the distance and spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, wherever.
My Heart Will Go On. Vous avez reconnu probablement le titre phare, le thème musical du film Titanic sorti en 1997. Film réalisé par James Cameron et la musique est par James Horner. Et on parle de cinéma aujourd'hui dans Grand Angle.
RCF, Faustine Fayette.
Et avec moi pour parler de cinéma et pour voilà ce Dieu qui s'invite sur grand écran, nous évoquons donc les festivals chrétiens, les ciné-débats qu'on peut faire aussi pour animer des pastorales. Sabine de la Moissonnière qui a écrit Éduquée par le cinéma, et puis Valérie de Marnac aussi qui tient la chronique cinéma sur notre antenne RCF et qui est secrétaire générale de l'association Cygnis Cinéma. Alors nous avons évoqué un petit peu quelques pistes, quelques bases pour créer, animer un ciné-club. Comment on termine une séance cinéma ? Alors moi je sais que par exemple quand je pars en regarder une séance ciné en famille, eh bien il y a ceux qui dès qu'on sort de la séance cinéma ont besoin d'en parler tout de suite, et il y a ceux qui surtout n'aiment pas en parler, qui veulent rester dedans. Comment on clôt le débat, la soirée cinéma ? Sabine.
Alors, après la projection immédiate, moi, je maintiens un petit moment de silence, en effet, parce qu'il faut digérer le film. Il y a tellement d'images et d'émotions à la fois qu'il faut digérer. Alors, en l'occurrence, dans le ciné-club que j'anime, nous changeons de pièce. Donc, ça permet d'abord de faire bouger les lycéens et ensuite de s'aérer un peu. Et puis ensuite, eh bien, nous avons un débat qui va porter sur des thèmes qu'on a pu tirer du film, l'amour, l'amitié, la relation à nos parents, la vocation, Dieu parfois, directement ou indirectement. Et puis justement, nous terminons, puisque nous sommes un ciné-club rattaché à une paroisse, par une lecture chrétienne du film. Donc on disait en début d'émission qu'il n'y avait pas besoin de choisir un film chrétien ou une vie de saint pour en tirer un enseignement chrétien. Moi, je ne mets jamais de vie de saint, jamais. Je mets vraiment des films qui sont profanes, contemporains en l'occurrence. Mais on peut trouver beaucoup, beaucoup d'enseignements de chrétiens dans la grande majorité des films. Et je pense notamment à Premier Contact de Denis Villeneuve, que j'ai montré récemment. C'est un film de science-fiction avec des espèces de créatures heptapodes, des martiens qui arrivent sur Terre, et on mandate une linguiste pour essayer d'entrer en contact avec eux. Et ce qui est très étonnant dans ce film, c'est que, en tout cas, nous chrétiens, on se dit, mais il y a une espèce d'évocation de la communion des saints, de l'éternité. Et le débat a terminé là-dessus, sur la communion des saints. Le fait que si moi je pose aujourd'hui une bonne action, ça peut aller beaucoup plus loin que mon petit monde aujourd'hui et éventuellement faire grandir le bien dans le monde, etc. Et ça, c'était passionnant. Alors que le film, alors je ne connais pas particulièrement Denis Villeneuve, mais je ne pense pas qu'il ait une intention ni religieuse ni chrétienne à travers cette évocation de martiens ou de personnages comme ça. Mais voilà, c'est ça qu'on en a tiré. Et on a parlé aussi de Promised Land. On parlait tout à l'heure, Pierre-Olivier parlait de
ou c'était Valérie, je ne sais plus, de l'enseignement du pape François. On regarde Promised Land, ce personnage qui choisit de renoncer à une fortune colossale pour respecter la terre de ses ancêtres et comprendre et aider des agriculteurs. On est en plein pape François et oui. Je ne suis pas du tout sûre que...
Et on retrouve des éléments de l'évangile.
Ah, complètement. Ouais.
Ça fait forcément écho pour un chrétien.
Ah bah oui, oui. Ouais, ouais, ouais.
Valérie de Marnac, comment vous terminez vos séances ?
Alors, dans un ciné-débat d'adultes, après le film, c'est important de laisser le générique se dérouler entièrement, parce que ça laisse ce temps-là. Parce qu'en fait, c'est souvent très long, un générique. Hein, ça dure plusieurs minutes, en fait. Et souvent, normalement, dans une bonne salle de cinéma, on ne rallume pas la lumière avant la fin du générique. Ouais. Alors, les personnes peuvent commencer à partir s'ils sont pressés. Mais même pour certains films, d'ailleurs, des génériques, à la fin d'un générique, il y a un élément... un petit dernier élément qui donne une petite clé pour un film, enfin vraiment. Donc, et puis ça laisse ce temps, effectivement, de... Et ensuite, commencer par faire réagir les gens de manière très simple et très concrète sur une petite scène qui m'a marquée, voilà, et donner la parole un peu à tous. Et puis après, dans un deuxième temps, commencer à redérouler le film ensemble, à le re-raconter pour... vraiment attendre le plus tard possible avant d'en tirer de partir dans des interprétations ou des thématiques qui sont beaucoup plus générales, même si c'est vers ça qu'on tend. Et pour terminer, oui, bien sûr. Alors nous, on aime plus volontiers quand je parlais de morale de film, de films qui ont des fins ouvertes. Alors quand je dis une fin ouverte, c'est pas forcément qu'il faut inventer la suite de l'histoire, encore que ça peut arriver, voire même des fins qui sont pas forcément interprétées de la même manière selon les spectateurs, mais qui a l'avantage d'ouvrir le débat tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des films qui, au contraire, ferment le débat à la fin.
Oui, le réalisateur va donner tout de suite une version.
Exactement.
Il y a d'autres films
à démontrer. Ça, voilà. C'est pas respectueux de la liberté du spectateur, et ça permet pas forcément le débat. D'ailleurs, Truffaut disait ça aussi de ces films. Le paradoxe d'un film, c'est qu'il doit échapper à son créateur, qui est le réalisateur, pour n'exister finalement à la fin que dans le regard et dans les yeux des spectateurs qui, eux, peuvent en parler.
Peu comme une œuvre littéraire.
Comme toute œuvre d'art. De toute façon, l'art a besoin du public. L'œuvre existe en soi, mais elle a un but, donc elle n'existe pas sans le public.
Alors, je vois que l'heure tourne. Il est temps pour moi de vous interroger sur quel est le ou les films qui vous ont marqué, qui ont été une expérience forte pour vous, cinématographique, émotionnelle, qui a peut-être marqué un passage dans votre vie. Alors, Sabine.
Est-ce que j'ai le droit d'en citer deux ?
Allez, deux.
Allez, deux. Alors, un ancien qui est 12 hommes en colère de Sidney Lumet, qu'on pourrait sous-titrer Comment ne jamais juger mon prochain, puisque tout accuse et tout accable ce jeune garçon, et finalement il s'en sort grâce à l'intelligence charitable d'un des jurés sans peine capitale. Et ça, c'est juste parce que ce juré se dit on ne connaît pas cet enfant, donc on ne sait pas ce qu'il a pu vivre, et on ne peut pas le juger à l'emporte-pièce. Je trouve ça intelligent et très frappant. Et peut-être Le voile des illusions, qui était un très beau film sur la conjugalité, avec ce jeune foyer qui part en mission en Asie. Ils sont anglais, ils partent en Asie, et madame, très rapidement, qui a épousé monsieur juste pour provoquer sa propre mère, et donc sans amour, va le tromper. Et lui, d'abord, la punit. Donc, il l'emmène au fin fond de la jungle, dans une mission. Et puis, finalement, se reprend, parce que lui l'aime profondément, réellement. Lui pardonne et va l'aider, par ce pardon, à se pardonner elle-même. Et de fait, elle va se mettre à l'aimer. Et je trouve que c'est un très, très beau film sur le pardon, sur l'amour et sur le fait que, finalement, dans un couple... Eh bien, l'autre doit toujours passer d'abord.
Valérie de Marnac, votre film, vos films qui vous ont touché, marqué ?
Oui, alors ça, c'est vraiment la question impossible pour un critique. Donc,
ah oui. J'ai un peu, quelle est votre œuvre préférée? Impossible
voilà,
à répondre.
Alors, j'ai plein de, voilà. Donc, je vais vous répondre. Soit ceux de la dernière semaine. Donc, c'est ceux dont je vais parler demain matin dans ma chronique.
Tous
donc, deux films, voilà, qui sortent ces jours-ci en VOD. Un polar noir français qui s'appelle La Nuit Venue. Voilà, avec Camélia Jordana, et un film rien à voir, beaucoup plus romérien, espagnol, qui était sorti en salle cet été, et qui vient de sortir en VOD, qui s'appelle Eva en août de Jonas Trueba. Voilà. Et puis, alors, de manière plus personnelle ou plus ancienne, dans les films qui... Alors, dans ma liste, il y avait 12 hommes en colère, Sabine, donc, mais j'ai fait une grande liste, donc, donc c'est bien, ça m'en fait un de moins. Peut-être le premier... J'ai commencé une liste de films que j'allais voir au cinéma quand j'étais une jeune adolescente, à 13 ans, et le premier de ma liste, de mon petit cahier, c'était L'Arbre aux sabots, d'Ermano Olmi, et il se trouve que c'est un des films primés par le jury œcuménique à Cannes en 1978. Alors voilà, je lui voue une tendresse particulière. Voilà.
Ça nous donne plein d'idées de films à regarder pendant les vacances de Noël.
Voilà.
Alors justement, il me reste 3 minutes et pour donner quelques idées à nos auditeurs de films à regarder avant Noël. Une idée de film, Sabine?
Oui, j'ai un film qui est vraiment familial. Donc on peut le regarder, dirais-je, à partir de 8 ans. Qui se passe pendant l'Avent, qui s'appelle Millions de Danny Boyle, qui est très à la fois amusant et profond, parce que il s'agit d'une famille, la maman est décédée peu de temps avant, il y a deux garçons, un qui est extrêmement attiré par l'argent, cupide, voire magouilleur, menteur, et l'autre est une graine de sein. Et pendant cette période de l'Avent, tout nous pousse, évidemment, aux dépenses, à la consommation, etc. Et ce petit garçon, le petit frère, va tirer sa famille, son papa et son frère, vers le haut en leur montrant le vrai sens de Noël et en partageant de façon frénétique un magot qui leur tombe du ciel. C'est pas une façon de parler. Il tombe du ciel parce qu'il est envoyé, il est jeté d'un train et ça tombe sur eux par des voleurs. Et au lieu de faire des dépenses... avec cet argent, le petit garçon entraîne sa famille à en faire un don. Et donc, je trouve ça intéressant dans cette période de l'Avent pour préparer Noël.
Millions. Et l'idée de Valérie, il nous reste 1 minute 30.
Bon, ça va être rapide alors. Juste pour mes mots, au cas où certains ne l'aient pas encore vu, mais un grand, grand, grand classique de Noël. Mais moi, je suis une fan de Frank Capra. Donc, rappeler la vie est belle quand même.
Eh oui.
Un grand film. Et puis un autre film aussi, qui est aussi un film qui a 100 ans, donc vous voyez, qui date pas d'aujourd'hui, mais qui est éternel, qui est The Kid de Chaplin. C'est un film qui est muet.
Charlie Chaplin.
Charlie Chaplin, qui peut du coup se voir à partir de même 3 ans. Hein, parce qu'il n'y a pas de parole, il y a juste quelques cartons qui donnent quelques éléments de. Et c'est l'histoire, voilà, juste d'un tout petit enfant fragile et pauvre et qui vient bouleverser le quotidien de Charlot.
Millions.
Un bon parallèle à faire avec les enfants à Noël.
Et oui, Millions, La vie est belle et The Kid, voilà, ce sont nos recommandations pour peut-être préparer Noël en cinéma. Je remercie beaucoup donc Valérie de Marnac et que vous retrouverez donc sur notre antenne tous les mercredis matins. Et puis Sabine de la Moissonnière qui a écrit donc Éduquée par le cinéma. Vous retrouverez cette émission sur notre site internet et en podcast rcf.fr. Merci à tous et très bonne soirée. Vous retrouvez tout de suite Vincent Bellotti et son émission Tout Doux.
Hello.